Quel est le lien entre herpès et Alzheimer? La question est à la une de la science. Aujourd'hui, une étude parue hier dans la revue Neurone renforce une théorie controversée concernant Alzheimer. Des chercheurs new-yorkais ont découvert un lien statistique fort entre la présence de certains virus de la famille de l'herpès dans le cerveau de personnes décédées et le niveau de développement de la maladie d'Alzheimer chez ces mêmes personnes. Une piste qui avait déjà été explorée par le passé et qui trouve ici des confirmations. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui, on est au téléphone avec Philippe Amouyel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé publique à l'hôpital de Lille et directeur du laboratoire d'excellence de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et pour replacer un petit peu cette étude dans son contexte, depuis combien de temps est-ce que le spectre de ces herpès virus, c'est une grande famille, pèse sur les recherches sur la maladie d'Alzheimer?
Alors, les premières hypothèses qui concernent l'implication éventuelle de ces virus de l'herpès dans la maladie d'Alzheimer remontent à la fin des années 90 où un chercheur anglais, qui est une femme, Ruth Itzhaki, a publié des travaux montrant que les gens qui avaient une certaine susceptibilité à la maladie d'Alzheimer augmentaient leur risque lorsqu'ils avaient une infection de type herpétique.
Et pourquoi ça a été mis un peu de côté et surtout, qu'est-ce qu'apporte de nouveau cette étude qui vient d'être publiée?
Alors, il est toujours difficile dans ces grandes études épidémiologiques de faire des liens biologiques forts. On fait des corrélations, on fait des associations, et surtout sur une maladie comme la maladie d'Alzheimer qui va s'étendre sur 10, 20 ou 30 ans, savoir si une infection qui a eu lieu dans l'enfance a une répercussion 65 ans après est extrêmement difficile à établir. Donc c'est pour ça que on cherche à avoir des preuves directes ou indirectes qui nous permettent de renforcer cette hypothèse. Et peu été exploré ces derniers temps jusqu'à l'explosion des nouvelles technologies et des nouvelles nanotechnologies d'exploration du vivant qu'on a aujourd'hui depuis le milieu du début de ce siècle. On s'est rendu compte qu'il était possible d'enregistrer énormément d'informations au niveau de l'ADN, au niveau de la cellule, et quand on combine toutes ces informations, c'est ce qu'ont fait ces chercheurs new-yorkais, apparaissent de nouvelles liaisons et qui ont pointé du doigt dans le lien avec la maladie d'Alzheimer deux virus de l'herpès humain.
On peut peut-être préciser que les virus dont on parle ici ne sont pas les virus connus pour être les maladies du baiser. Hein.
Non, alors il existe un grand nombre d'herpès. De virus, ouais. D'herpès, de type herpétique, on dit. Il en existe un en particulier qui est celui qui donne une forme que connaissent bien les pédiatres et les mamans qui, lorsqu'elles voient leurs petits-enfants de 2-3 ans faire une poussée de fièvre et se couvrir de tout petits boutons, qu'on appelle la roséole ou sixième maladie. Ça, c'est un virus de l'herpès, par exemple. C'est dans le cadre de ce type de virus que le lien a été fait. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, c'est que ces virus herpétiques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pathogénicité, ont la fâcheuse tendance de se cacher dans nos cellules, en particulier certains dans nos nerfs, l'exemple du virus de la varicelle, l'exemple des petits-enfants à la varicelle, les grands-parents vont faire le zona, c'est juste le même virus qui se réveille à deux époques différentes, parce qu'il était là, dormant, bloqué par notre système immunitaire, et que tout d'un coup, il se met à réapparaître.
Alors Philippe Amouyel, ce que vous nous dites, ça va rassurer tous ceux qui ont un herpès sur le visage et qui se disent « bon, ouf, ça n'augmente pas mes chances d'avoir la maladie d'Alzheimer ». Par contre, tous les parents qui ont un enfant en bas âge qui a contracté la roséole ou qui l'ont eu étant petit, vont être inquiets. Alors qu'est-ce qu'on leur dit ?
Alors, on leur dit d'abord que c'est jamais qu'une association, qu'il va falloir le prouver qu'on en est loin, ça c'est le premier point, mais surtout, c'est que cette roséole est fréquente. 85% de la population humaine l'a fait au moins une fois dans sa vie. Et quand vous avez un facteur de risque fréquent comme celui-ci et une maladie malheureusement fréquente après l'âge de 80 ans, comme la maladie d'Alzheimer, on peut trouver des associations. Mais ce qui est important maintenant de savoir, c'est comment tout ça fonctionne. Est-ce que c'est le virus lui-même, le fait d'avoir fait cette roséole qui est le facteur de risque, ou alors ce qu'implique ce virus au niveau de notre métabolisme, au niveau de la façon dont notre corps résiste à la maladie d'Alzheimer, qui est important. Parce que dans un cas, c'est pas la même chose, vous pouvez très bien avoir été infecté, et c'est ce qui arrive pour la majorité d'entre nous. En revanche, si vous n'avez pas les conditions qui favorisent l'apparition de la maladie d'Alzheimer associée à cette infection, à ce moment-là, vous pouvez lutter contre, vous pouvez prévenir cette maladie. Donc ce que les chercheurs là ont découvert, c'est un lien biologique qui nous permet de mieux comprendre comment la maladie s'installe avec le temps, de mieux comprendre les moyens qu'on va pouvoir également d'avoir de prévenir la maladie avec des habitudes de vie, avec un fonctionnement qui va justement amener à nous éloigner le plus tard possible le début des symptômes de cette maladie.
Philippe Amouyel, si on rentre un petit peu dans le cerveau quand même, est-ce qu'on a une idée ou des hypothèses de ce qui se passe dans le cerveau justement avec ce virus et ce qui pourrait favoriser la maladie?
Alors ce qu'il faut faut savoir, c'est que notre cerveau, face à la maladie d'Alzheimer, ne reste pas inactif. Il lutte. Il va lutter, puis quand il pourra plus lutter, ben les symptômes, malheureusement, apparaîtront. Mais pendant 10, 20 ou 30 ans, il lutte. Or, ces virus, généralement, notre cerveau lutte également contre eux. Et ce qu'on imagine, c'est que il est un peu épuisé à lutter à la fois contre les virus, contre la maladie d'Alzheimer. Donc, s'il met en premier les virus, il va un peu se relâcher sur la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, hein, de manière très schématique. Du coup, ce qu'on se dit, c'est que si on connaît ces mécanismes de défense, si on arrive à les surstimuler de manière à ce qu'ils puissent à la fois lutter contre les virus, mais également contre la maladie d'Alzheimer, on aura là trouvé une nouvelle voie de prévention et de traitement de la maladie. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette découverte.
Mais dans ce cas, il n'y a pas de spécificité des virus de l'herpès, parce que n'importe quelle infection qui fatiguerait nos défenses immunitaires viendrait augmenter les chances de développer Alzheimer.
Alors, il n'y a pas de spécificité, vous avez raison, du virus de l'herpès, mais il n'y a pas de spécificité de la maladie, parce que dans d'autres maladies, on trouve l'implication de ces virus, des maladies comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Parkinson, on pense qu'ils peuvent avoir une action, mais pas nécessairement une action directe et spécifique, mais bien une action vis-à-vis des mécanismes de réaction qu'a notre cerveau pour lutter à la fois contre ces virus et contre les maladies qui l'agressent.
Donc, est-ce qu'il faut retenir que les virus qui sont dans notre cerveau peuvent potentiellement favoriser la maladie, ou est-ce qu'il faut retenir ce nom d'herpès virus et cette famille en particulier? Est-ce qu'il y a vraiment un faisceau de preuves plus précis?
Alors, de toute façon, par rapport à ce travail qui est un premier travail, il va falloir attendre des confirmations. Vous savez qu'en recherche et qu'en science, un résultat n'est valable que quand on n'a pas démontré qu'il ne l'était plus. Donc, beaucoup d'équipes vont se mettre probablement à regarder la même chose, voir si elles confirment ça. Donc, attendons déjà ces premières informations. Ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un peu une reviviscence de cette hypothèse virale, mais il en existe beaucoup d'autres. Ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Donc, il ne s'agit pas de paniquer, il ne s'agit pas de se dire « Ah mon Dieu, je fais un herpès, que va-t-il se passer ?» Mais bien au contraire, de voir ça comme quelque chose de positif, qui va être une source de nouvelles découvertes pour justement savoir comment mieux lutter contre la maladie d'Alzheimer.
Merci Philippe Amouyel, à la fois de nous avoir expliqué et de nous avoir rassuré. Je signale votre livre intitulé Le guide anti-Alzheimer, qui est paru en mars dernier aux éditions du Cherche Midi. Un grand merci à vous. Et Axel, vous restez dans le coin pour soutenir vos étudiants.
Et oui, à tout à l'heure.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, triste nouvelle, Coco, la gorille, s'est éteinte avant-hier pendant son sommeil à l'âge de 46 ans. Coco était une femelle gorille la plus célèbre au monde. Elle a fait la une de National Geographic à deux reprises, mais elle est surtout connue pour être l'ambassadrice des gorilles et le symbole de la communication entre les espèces. Exceptionnellement intelligente, Coco avait appris dès son plus jeune âge à communiquer avec les hommes en langage des signes et avait démontré une grande capacité d'empathie. Des images de Coco avec l'éthologue Penny Patterson sont visibles sur le Facebook de La Tête au Carré. En une du magazine Science, cette semaine, les sacrifices humains des Aztèques. Des milliers de crânes découverts depuis 2015 ont permis aux scientifiques de décrypter un important site de sacrifice humain dans la capitale aztèque Mexica entre le 14e et le 16e siècle. Pour nourrir les dieux et s'assurer la santé, les Aztèques ont érigé des murs de crânes humains de 36 mètres de longueur, ainsi que des tours constituées uniquement de crânes. Précision moyennement rassurante, toutes les personnes sacrifiées n'ont probablement pas souffert de leur décapitation, puisqu'on avait pris soin de les tuer juste avant en leur arrachant le cœur. Et pour terminer, un clin d'œil à l'outre-mer. Si vous êtes en Guadeloupe entre le 25 et le 29 juin prochain, ou si vous nous écoutez depuis Basse-Terre, ne manquez pas le deuxième sommet mondial de l'exploration du côté sombre de l'univers. L'événement propose deux conférences grand public autour des grands mystères de l'univers. Conférences présentées par les astrophysiciens François Boucher et David Elbaz du CNRS. Big Bang, trous noirs et matière noire sont au programme. C'est gratuit et ça promet d'être passionnant.